les vendredis, 19h-20h.
On se tutoie.
Avec Jean-Luc Reichmann sur Nostalgie.
Bonjour, bonsoir, c'est Jean-Luc Reichmann. Alors oui, une nouvelle aventure commence, une histoire de dingue. Chaque vendredi, entre 19h et 20h, le programme, la base, on se tutoie. Ensuite, laissez-vous guider. Allez, on est parti ensemble. Après tous ces invités taille patron ces dernières semaines dans On se tutoie sur Nostalgie, j'avais besoin de me retrouver pour un vrai face-à-face avec une femme. Une vraie. Mais comment arriver à trouver la femme qui, d'un revers de corde vocale, à grands coups de charisme et de séduction féminine, pourrait balayer tous les préjugés machistes? Il est vrai qu'après Polnareff, Bertignac, Dubosc, Marc Lavoine, comment trouver celle qui pourrait représenter la femme avec un grand F par sa féminité, par son originalité, sa fragilité, son audace et par sa personnalité hors norme? Pour m'aider dans ma démarche, j'ai cherché et finalement, dans un élan de lucidité, je me suis dit tiens que j'allais écouter les auditeurs de Nostalgie.
What's happened, sir, le WhatsApp de Jean-Luc?
Allô? Oui. Allô Jean-Luc, bonjour, c'est Monsieur Ledoux à l'appareil. Et j'aimerais bien que vous receviez celle que j'adore depuis des années, parce qu'avec le temps, elle au moins, elle est restée toujours aussi belle et aussi féminine. Oh, elle est vraiment restée intacte. Mais le problème, c'est que je ne sais plus comment elle s'appelle.
Merci Monsieur Ledoux. Merci pour votre aide précieuse. Eh bien figurez-vous, finalement, chers auditeurs, en accord avec la haute autorité de santé de Nostalgie, pour la première fois, la toute première fois devrais-je dire, une toute première invitée au féminin, qui pendant toute sa carrière a osé, avec son charme, ses tenues détonnantes, ses coiffures extravagantes, avec ses chorégraphies envoûtantes et ses musiques entêtantes, et ce n'est pas Johnny qui me dira le contraire. Aujourd'hui, tel un fan de base, j'ai mis mon cœur en rouge et noir pour la recevoir. Bonsoir Jeanne Mas.
Bonsoir, c'est très très beau, bravo.
Merci beaucoup.
Très beau.
Alors l'émission s'appelle « On se tutoie ».
Oui.
Et je suis très heureux de te recevoir parce qu'on se tutoie depuis maintenant quelques années. Mais c'est un bonheur. On va essayer de parcourir quelques petits moments de ta carrière pour les auditeurs qui ne se rappellent plus ou qui ne te connaissent pas, hein, parce que Nostalgie, ce sont de jeunes auditeurs aussi. C'est assez intéressant, ça commence en 1978. On est un peu sur la Lune. Là, c'est toi qui chantes en 78.
Oui.
Ça vient d'où c'est, on est ailleurs.
Oui, on est ailleurs. Déjà, on est en Italie.
D'accord.
C'est le premier single qu'on me fait enregistrer. Et,
ouais.
Et voilà, puis ça a duré pas très longtemps parce que bon, j'avais quand même un look un peu trop provocant qui ne correspondait pas du tout à ce que je voulais défendre.
Ouais.
Et puis voilà, mais ça a été une très belle expérience. Franchement, c'était le début de ma carrière.
On t'a fait habiller comme ça ou
On m'a fait habiller avec... C'était un petit corset avec des jartelles et une collerette de clown. Et de Pierrot plutôt, mais bon, ça faisait clown.
Mmh.
Et que j'ai retiré tout de suite en disant, écoutez, non, ça, c'est pas moi. Et donc, tant pis, j'aurais pas de look. Mais ils avaient déjà cet esprit, le look. Quoi.
Mais t'avais déjà ta personnalité en disant, non, moi, je veux pas faire ça, voilà, ça m'intéresse pas. Parce que t'avais quoi? T'avais une vingtaine d'années, quoi, maximum.
Oui, j'avais une vingtaine d'années, oui.
D'accord, donc...
Mais voilà, c'était... Je voulais faire ce métier, j'avais cette vocation en moi, mais pas... Pas dans le ridicule.
Pourquoi l'Italie à ce moment-là?
Ah, pourquoi l'Italie? C'est parce que j'ai été attirée très vite par ce pays,
mm-hmm.
et que j'y suis partie parce que voilà, je voulais déjà quitter la maison de mes parents et, et deux, je voulais commencer à vivre ma vie et ma vie a commencé en Italie et j'en suis très contente.
On continue en 1980 et c'est trop mignon. Excuse-moi pour la prononciation, hein, je ne suis pas italien du tout. C'est Cuero di Vento. Là, on est en 80, hein, quand même.
84, oui.
Ah ouais, on est en Italie, on est en 84, là.
Oui, alors là, c'était plutôt 83, parce qu'on a quand même mis le temps d'enregistrer et puis après d'obtenir un contrat.
Mm-hmm.
Mais oui, c'était juste avant, mais ça a été très, très vite, hein, ça aussi. Hein.
Ah ouais, parce que quand tu dis très, très vite, en 85, ça déboule en France. Et puis là, justement, Jeanne Mas, nous, on la découvre avec ça. Là, c'est la version française de Cuero di Vento, c'est ça?
Oui.
Ça fait comment la transition entre l'Italie et la France de Cuero di Vento à toute première fois,
hein? Alors, Cuero di Vento, c'était une maquette qu'avait Romano et son équipe donc, mm-hmm. dans un tiroir. Ils l'ont ressorti, me l'ont fait chanter. Mm-hmm. Et après, comme moi, ils ont dit « écris un texte en français mm-hmm. ». Et j'ai écrit le texte en français le soir même. Et le lendemain, j'avais toute première fois... qui était là, et on l'a réenregistré, et après je suis venue en France pour proposer cette version.
Et c'est toi qui écris les paroles?
Oui, c'est moi.
Genre sur un coin de table, comme ça, très rapidement, en disant tiens, on va se le faire en français.
Non, pas un coin de table, j'ai plus de respect pour que cela pour l'écriture. Non, en général, voilà, c'est le soir, il faut que je me retrouve seule, ou alors quand je conduis.
Mmh. Alors ça, c'est quand même assez extraordinaire, je prends de l'eau. Mais donc, tu écris en conduisant, alors?
Oui, tout à fait. Les idées viennent en conduisant parce que, tu sais, quand on conduit, on rentre dans une sorte d'hypnotisme naturel. Et donc, tu peux aller plus loin que le fait que la route, quoi.
D'accord. C'est-à-dire que tu prends un dictaphone et puis tu t'enregistres?
Ah non, mais c'est horrible parce que je n'ai pas de dictaphone. Alors maintenant, avec les portables, c'est un petit peu plus facile.
Ouais.
Mais sans ça, je cherche un crayon, je cherche un bout de papier.
Mais c'est très, très dangereux. Fais attention, Jeanne.
Oui, je sais, mais j'aime le danger.
Oui, mais quand même, fais attention pour les autres. 1985 toujours, on a ça sur les platines. Là, c'est quand même la déferlante, hein, les années 80. Là, tu représentes la femme qui défend évidemment des valeurs. On va en reparler pendant 7 heures. Johnny, il pousse comment dans ta tête? Comment ça se passe, l'écriture de ce titre,
hein? Ouais, en fait, Johnny, c'était le contraire. En fait, c'était un petit peu dans l'opposition de toute première fois, puisque toute première fois, je parlais de la tristesse et de la déception amoureuse d'une femme. Et là, c'était la tristesse et la déception amoureuse d'un homme.
Mmh.
Donc, comme ça, j'avais fait le tour.
Les messages, ils sont quand même assez forts et assez puissants parce qu'on croit que Jeanne Masse est légère comme ça, mais à chaque fois, il y a des messages dans toutes les chansons. On parlera de ton nouvel album, bien sûr, Mon Elix, et puis avec Andalouse. À chaque fois, il y a des messages. On croit que Jeanne Masse est en rouge et noir, c'est toute première fois.
Oui.
Mais quand on fait, effectivement, l'analyse un peu plus profonde, il y a toujours le message sincère, parce qu'en fait, ce qui te caractérise, c'est la sincérité, en fait.
Oui, j'espère. Mais c'est vrai qu'on a, dans les années 80, on accordait beaucoup d'importance à mon look et non pas trop à mon œuvre.
Mm-hmm.
Et même si les chansons passaient, les gens aimaient bien parce qu'en fait, elles faisaient danser et puis elles émanaient certainement quelque chose. Mais c'est vrai que bon, là, c'est à partir de En rouge et noir, où les gens ont commencé peut-être à comprendre que j'avais des messages à passer. Sauvez-moi était l'un des plus grands messages, mais il n'a pas été capté tout de suite.
Mmh.
Et par la suite, j'ai continué avec des chansons plus compliquées, comme J'accuse, qui parlait du viol. Et voilà, et encore dans cet album où je parle justement de l'abus des prêtres.
Ouais, absolument. Non, mais on peut en parler complètement. En rouge et noir, il est sur les platines, parce que j'aime bien ce mot platine de nostalgie. Vous l'avez bien compris, c'est Jeanne Masse avec qui nous passons une heure. Sur la route, ça tombe bien. Je ne savais pas que tu écrivais en conduisant. On est sur la route, nous, en ce qui nous concerne, du week-end sur Nostalgie.
En rouge et noir.
Il y a quand même un cri d'amour, un cri de désespoir. Voilà, il y a un SOS là, non?
Mais partout, je pense qu'en fait, on est tous en quête de tendresse et d'amour. Et la vie est parfois si cruelle qu'on en oublie vraiment l'essentiel. On a tous besoin d'amour.
Ouais, alors quand tu dis qu'elle est cruelle, apparemment, tu as vécu des choses qui sont quand même assez fortes.
Je ne parle pas de moi, je parle du monde en général.
Oui, bien sûr.
Il y a dans la vie, bien sûr.
Mais à ce moment-là, quand même, tu te rebelles, quoi, en rouge et noir. Quand tu parlais tout à l'heure de J'accuse par rapport au prêtre, c'est qu'il y avait un message sous-jacent là-dessous, non?
Ouais. Sur En rouge et noir, hein.
Ouais, et même sur J'accuse, c'est à chaque
alors,
fois c'est,
ouais, c'est... J'accuse, c'était pas sur les prêtres, mais sur le viol des jeunes filles, et bon, qui par la suite a été très bien repris par Me Too. Mais En rouge et noir, en fait, oui, c'est tout ce, quand on est ado, c'est tout ce qu'on subit. Et puis à un moment, on se donne force et on se dit, bon, ok, j'irai plus haut que ces montagnes de douleur. Parce qu'en fait, je suis quelqu'un, je suis une battante et je pense qu'on a tous ce choix. Soit tu t'effondres, soit tu te bats. Et voilà, et il faut choisir de se battre parce que c'est un challenge et que c'est, on se sent tellement mieux après.
Ouais, ouais, tu te bats, mais tu as besoin des autres parce qu'à un moment donné, dans le même album, je pense, si je ne me trompe pas, si je me trompe, tu me le dis, bien sûr, il y a Sauvez-moi, donc c'est un petit appel que l'on écoute. Sauvez-moi, quand il me soulève, qu'il me tend la main, ma voix se déraille. C'est fou ça, hein, quand même. Là, il y a.
Sauvez-moi, c'est sur les violences conjugales.
Ouais.
Donc en fait, là aussi, la femme est victime. Mais là, c'était pris. On a fait quand même des arrangements légers parce que sans ça, ça sombrait vraiment. Après, en rouge et noir, la fille, elle avait vraiment envie de plomber le moral.
Ouais. Mais déjà, à l'époque, quand même, tout ce qui ressort aujourd'hui dans la société. T'étais quand même précurseur.
Toute seule, hein.
Mais oui,
ouais.
T'étais toute seule.
J'étais toute seule, ouais.
Ouais, mais non seulement t'étais toute seule, mais t'as été suivie par un nombre d'ados, de jeunes,
ouais,
qui aujourd'hui se reconnaissent encore dans tes
paroles.
Et de femmes
qui se reconnaissaient, qui reconnaissaient leur vie dans mes textes et dans ce que je voulais défendre. Mais c'est vrai que médiatiquement, ça passait pas parce qu'on voulait de la légèreté, on n'avait pas envie de déranger. Mais si on dérange pas un peu, on n'évolue pas.
Quand les gens te rencontrent aujourd'hui en 2025, ils te disent quoi?
Parce j'adore que... ce que vous faites.
Ouais. J'adore ce que vous
faites.
Je ne
sais pas ce que j'ai fait.
Non, parce que tu as quand même tous des mouvements derrière, les LGBTQ+, etc.
Oui,
etc.
Oui.
Qui sont vraiment totalement voués à toi et à ta cause.
Oui. Oui, bah, ce sont des rebelles aussi, hein. Ils ont une cause à défendre et voilà, c'est pour ça qu'on se retrouve sur le même chemin.
Ouais, et bah, le chemin, il est très très beau avec Jeanne. Alors après, il y a l'art des femmes, toujours la défense des femmes.
Ouais.
Là, ça a toujours été ça.
Oui, c'est ça. C'est vrai que je suis très pro-femme, disons dans la défense de leurs droits. C'est ça qui m'intéresse. Après...
Ouais.
Voilà, c'est comme partout, mais c'est vrai qu'en étant femme, je vois ce qui se passe dans notre, voilà, de notre côté, et des fois, bah, ça me révolte.
Ouais, mais ça, c'est Jeanne. Alors après, il y a des rencontres assez extraordinaires, avec tous les cris, les SOS, et puis on démarre aussi une autre histoire. Là, on fait un grand saut, bien sûr, avec une autre histoire de Gérard Blanc, avec Le Sud de Nino Ferrer, avec même Julien Clerc, Le Cœur Volcan, c'est quoi ça, le Cœur Volcan?
Ah, oh, c'est beau ça.
Ouais.
C'est beau. Oui, j'ai voulu à un moment reprendre des chansons qui m'avaient émue. Et en fait, c'est pas juste Julien Clerc, c'est Étienne Rodagil. Hein.
Oui, bien sûr.
C'est
un grand parolier pour nos auditeurs.
Oui, j'ai tellement regretté de ne pas avoir travaillé avec lui que finalement, voilà, j'avais repris Le Cœur Volcan parce que je voulais chanter du Rodagil.
Ouais, t'avais repris quand même pas mal de petites choses. Et aujourd'hui, effectivement, là, il y a quelque chose d'assez extraordinaire, une espèce de petit ovni. Aujourd'hui, en 2025, tu reviens avec Mon Hélix. Est-ce qu'on peut, je sais pas, déterminer la ligne éditoriale ensemble de cet album, Mon Hélix?
Alors, c'est un album extrêmement électronique.
Ouais.
Parce qu'aujourd'hui, je me sens toujours dans cette veine d'évoluer et de proposer quelque chose de neuf. Puis j'adore danser, donc voilà. Donc c'est très électronique. Disons que en fait, il y a les textes, il y a les interprétations qui sont totalement différentes.
Mmh.
Je pense qu'il y a une évolution. Il y a une évolution et c'est au public après de dire voilà pourquoi j'aime ou pourquoi voilà je me sens pas trop. Dedans, mais pour l'instant, je touche du fer ou du bois, je ne sais pas trop ce qu'on touche, mais...
On se touche la tête, parce que
on
comme
touche
ça...
La tête,
ouais,
voilà,
ouais.
Bah,
on touche du bois,
l'album se porte très bien et que les gens qui l'écoutent sont très réceptifs et se retrouvent dans mes textes encore une fois.
Dans Andalouse, il y a aussi des messages de fou, non, quand même?
Il y a plusieurs messages dans cet album. Il y a la première chanson, Nous,
ouais,
qui parle de notre société actuelle et de la haine qui est derrière ces réseaux, tout le temps derrière ces écrans. Et voilà, et qu'en fait, on n'est plus dans la tolérance, on n'est plus dans la compassion. Il y a une rage incroyable. Donc, en fait... je parle de cette rage qui est voilà, qu'on transmet à travers nos écrans. Donc, je parle de ça. Je parle également...
Quel est ton rapport juste avec, avec les écrans, toi, aujourd'hui?
En fait, moi, je regarde ça un peu comme un spectateur parce que je n'ai pas envie d'adhérer, je n'ai pas envie de participer. Moi, je suis pour la paix, je suis pour la compassion, je suis pour la, l'amitié. Et je pense qu'on devrait tous se soutenir plutôt que de se détruire. Hein. Et voilà. Donc, mais je regarde parce que c'est quand même intéressant. C'est un phénomène de société où aujourd'hui, tout le monde a la haine. Hein.
Oui, non, mais c'est clair. Toi qui partages ta vie entre la France et les États-Unis, l'arrivée de Donald Trump, ça te met un coup? Tu le ressens comment, puisque tu es quand même très souvent de l'autre côté de l'Atlantique?
Moi, en fait, c'est vrai que j'essaie de prendre mes distances par rapport à ça, tout simplement parce que wait and see. Ouais. Attends et tu verras. Non, mais c'est ça. Ce qu'il a promis avant toute chose, c'est de ramener la paix dans le monde. Donc moi, j'espère que wait and see, on va pouvoir avoir cette paix vraiment dans le monde. Parce qu'encore une fois, je pense que on a tous une mission de d'entraide. Mm-hmm. Après, c'est les Américains qui sont plus concernés que moi, parce que moi, je suis en partie américaine, mais je ne me sens pas américaine. Mm-hmm. Donc, c'est aux Américains de décider qui est leur président, et voilà, et moi, je respecte le choix des Américains.
Cette décision, toi, de partir aux États-Unis, elle a été prise comment? Sur un coup de tête? Sur une envie d'autre chose? Une envie de quitter la France?
Oui. Non, d'évoluer. D'accord. D'apprendre, d'évoluer, de donner à mes enfants la possibilité de devenir totalement bilingue, de leur donner aussi un choix entre une société qui est projetée vers le futur et également une Europe qui est bien ancrée dans ses valeurs, dans son histoire. Donc, en fait, c'était ça que je voulais. Je voulais leur donner une autre option de la vie. Et du coup, c'était très drôle parce que mon fils est resté là-bas, ma fille est revenue ici. Donc, finalement, c'était... Voilà, mais je pense que plus que... L'Amérique, en fait, c'est les opportunités que tu as aux États-Unis qui sont très intéressantes parce que là-bas, en fait, tout est possible.
D'accord.
C'est pas facile, rien n'est facile, mais tout est possible. Et donc, dès que tu arrives avec des idées, avec quelque chose de neuf... Les gens vont t'encourager. On ne te casse jamais une
idée. On ne te met pas la tête sous l'eau avec la paperasse, etc. etc.
Ça, non. C'est extrêmement plus facile, mais c'est surtout au niveau de la création. Parce que moi, c'est ça qui m'intéresse. Donc, au niveau de la création, quand vous amenez une idée, les gens vont dire « Ouais, that's great, c'est génial. » Alors qu'ici, on a plus tendance à dire « Mais non, ça ne va pas marcher. » Et en fait, moi, c'est ce côté négatif à chaque fois, comme la pluie, comme... cette grisaille qu'il y a constamment à Paris, en fait, où on te plombe. Ouais. Et là-bas, en fait, tu rayonnes.
Il y a un positivisme.
C'est ça.
Et ton fils, il est resté dans quelle branche? Parce qu'apparemment, ils sont dans le milieu artistique également.
Alors, mon fils, il est ingénieur du son. Et donc, il fait le son dans les films, dans les téléfilms. Il fait le son aussi pour les télévisions et pour les matchs donc, du NFL, qui est donc la ligue américaine de football. Mm-hmm. Et il va faire le Super Bowl. Voilà. Et donc, En fait, il réussit.
C'est l'univers des possibles, alors que c'est assez impossible en France. Et à contrario, ta fille a décidé de revenir, tu disais,
oui,
en France.
Oui, voilà, elle est auteure, elle a écrit donc, des livres à succès, elle continue encore. Donc, tout va bien pour eux. Et c'est marrant, ils ont choisi leur voie, mais moi, en tant que maman, il fallait que je leur donne toutes les options.
Non, mais c'est quand même... voilà, c'est cette transmission. Alors, transmission encore de messages. Je t'ai coupé un petit peu parce que je trouvais ça très intéressant.
Oui.
D'autres messages, effectivement, dans Mon Elix, sur chaque musique, il y a un petit message.
Oui.
Si vous ne connaissez pas Mon Elix, eh ben, il y a une espèce d'andalouse qui va vous envoûter.
Elles iront marcher.
Andalouse, alors là, effectivement, les messages, dans chaque chanson, il y a des messages qui sont forts parce qu'il y a effectivement l'apparat, tout ça, c'est sympathique, c'est rythmique et tout. Et puis, sur chaque mot, bien pensé, bien pesé. Je trouve que à chaque fois, c'est super puissant. Je comprends quand même que les gens te suivent depuis des années parce que cette sincérité dans le propos, elle est très profonde. profonde à chaque fois. On peut parler d'Andalouse aux auditeurs qui découvrent, en fait, il y en a beaucoup qui peuvent découvrir ce morceau d'Andalouse.
Oui, alors Andalouse, c'est le sujet. En fait, je raconte des histoires dans mes chansons. Mmh. Et Andalouse, en fait, c'est cette vision de ces Espagnols du Sud. Ma mère m'a... Enfin, c'est en regardant ma mère que j'ai voulu écrire un texte sur les Andalouses, parce que c'est une femme qui a été très forte, qui est toujours très forte. Mais surtout, elle me raconte la vie et sa jeunesse et combien c'était compliqué, je veux dire, parce que juste après Franco, ou même pendant Franco, et tout ce qu'elle me... Et j'ai réalisé la force de ces femmes, la force de ces Andalouses, et qui sont là pour se battre, pour donner un monde meilleur à leurs enfants. Et en fait, c'est ça, c'est des histoires que je raconte dans mes chansons, et voilà, en espérant que les gens se retrouvent dedans. Quoi.
Il y a beaucoup d'inspiration de l'étranger, on parle des États-Unis, on parle de l'Espagne, on parle de l'Italie aussi, beaucoup quand même.
Oui, j'aime beaucoup l'Italie. Ouais. Oui, et puis cet album a été travaillé avec différents ingénieurs du son. Par exemple, ma reine, qui est l'une de mes chansons préférées aussi dans cet album, qui parle de Marie-Antoinette et de cette connexion avec Marie-Antoinette, a été mixée par un Italien. Nous a été mixée par un Américain. J'ai travaillé avec des Espagnols. J'ai travaillé avec plein de gens. Et ce qui fait que cet album a des sonorités et a aussi des vibrations du monde entier.
Oui, mais il y a quand même une unité là-dedans. C'est-à-dire que
oui,
si
c'est
tu
moi.
Nous le... Oui, bien sûr, mais si tu ne nous le dis pas, on se dit que c'est le même mec qui est derrière les boutons.
Ah oui, ben non, j'ai travaillé différemment avec différents talents, mais l'unité, c'est moi, parce que ce sont mes arrangements.
D'accord. Et à chaque fois, tu es derrière les boutons. À chaque fois,
oui, à chaque fois, je suis derrière les boutons. Puis après, on envoie les files à droite, à gauche, comme ça, ce qu'on travaille aujourd'hui par Internet et qu'on fait. On passe plus des heures et des jours dans les studios. Mais c'est super, quoi. C'est super.
C'est plus qu'une vie, c'est une passion. C'est ce que tu vis.
Ah, c'est passionnant.
Ouais, ouais. C'est passionnant. Ouais. Alors, on est dans ta pub avant la pub, bien sûr. Vous l'avez bien compris, c'est Jeanne Mas que nous recevons ce soir sur la route du week-end. Alors, cet album, Mon Elix, évidemment, c'est un petit bonbon. On parle juste, pour terminer, de cet album. De ça, c'est l'intelligence artificielle, cette couverture-là.
La couve, oui. La couve, toutes les photos qui sont dans l'album ont été travaillées avec l'intelligence artificielle en utilisant des photos, mes photos, et également des œuvres de Gustav Klimt.
Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Gustav Klimt, il y a Munch, il y a Klimt, il y a un petit peu tout
oui.
le monde.
Ouais.
Là, on est proche de Frida Kahlo aussi.
Ah, j'adore Frida Kahlo.
Non, mais il y a quand même des inspirations d'un peu partout. Donc, tu mets tout dans la machine et tu dis, tiens, un peu plus de vert, un peu plus de bleu, un peu plus de relief. Comment ça se passe pour
Tu dictes à la machine ce que tu veux, tu lui donnes déjà une base, et puis tu dictes, voilà... À ces grosses machines, voilà ce que tu veux, et tu recommences. En fait, bon, pour faire des pochettes comme ça, ça a pris des mois. Hein.
D'accord.
Jour et nuit. Hein.
Donc, ça veut dire que toi, au quotidien, tu joues avec l'intelligence artificielle.
Oui,
c'est
beaucoup.
Le prolongement de ta pensée, de ton imaginaire.
C'est un outil formidable pour la création. Et quand je suis tombée dessus, quand j'ai voulu explorer, parce que justement, je veux évoluer aussi avec mon travail aux États-Unis, je suis tombée sur cette possibilité illimitée de créer. C'est incroyable.
Parce que la couverture et même le disque, c'est une œuvre d'art quand même.
Oh, merci.
Non, mais c'est vrai ce que je dis.
C'est incroyable, ouais.
Juste une question, ça ne te fait pas peur, donc l'intelligence artificielle, parce que à chaque fois qu'on pose la question, moi je pose la question à trois quarts des Français, ça les terrorise. Il faut apprendre à vivre avec cette intelligence artificielle,
oui.
parce qu'on se dit que quelque part, il n'y aura plus cette création artistique. Alors tu es en train de nous dire totalement le contraire.
Ah, oui.
C'est le prolongement de ta pensée et la concrétisation de ce que tu as envie de faire toute seule chez toi, tu peux arriver à mettre du rouge, du bleu, du vert, plutôt que de passer par diverses agences qui sont insupportables avec une inertie impossible en disant bah, il faut attendre le retour de ceci, de ceci, de cela. Toi, tu as le retour immédiat. Ça ne te fait pas peur donc ?
Non, ça ne me fait absolument pas peur. Au contraire, c'est un outil de travail dans mon secteur. Hein. Attention, je ne parle pas de tout ce qu'on peut amener avec l'intelligence artificielle. Moi, ce qui m'intéresse, c'est juste pouvoir travailler mes visuels et mes clips avec, ça, avec cette, ce nouvel outil. Maintenant, avant, il y avait aussi Photoshop. On utilise encore aujourd'hui Photoshop. Donc, les montages, on peut aussi les faire avec Photoshop. Sauf qu'avec l'intelligence artificielle, on peut aller 1000 fois plus loin.
Et mille fois plus vite.
Et plus vite aussi, mais plus vite, en fait, il faut que la machine aussi comprenne ce que, là où tu es, et tout n'est pas toujours bon. C'est-à-dire que des fois, tu te retrouves avec des mains qui ont 15 doigts. Ouais. Voilà, il y a des choses comme ça. Mais ça, c'est très drôle, parce qu'en fait, il y a plein de choses que...
Voilà, c'est ça. Ça va plus vite.
15 doigts, tu dis, il n'y en a pas un de trop. Une fois, j'ai fait une image magnifique, et j'avais pas vu tout de suite qu'il y avait trois bras.
Ouais.
Trois bras et,
c'était Shiva,
donc...
quoi.
Ouais, non, c'était trop drôle, mais c'était magnifique. Hein, je veux dire, donc on arrive à obtenir des choses incroyables. Après, il faut arrêter d'avoir peur de tout. Il faut justement s'adapter à son époque. Il faut, en tout cas, moi personnellement, et c'est ça, c'est en ça où les États-Unis m'aident beaucoup, c'est qu'on est pro-futur. On utilise toutes les nouvelles technologies pour avancer, pour faire de la création. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la création.
Donc, les parents, les enfants, ne vous inquiétez pas, Jeanne Mas vous dit, arrivez à dompter la machine, ne vous laissez pas déborder par la machine. En revanche, il faut rester maître de l'outil.
C'est des programmes qui vous permettent d'accéder aux machines aussi. Donc, il n'y a pas de souci. Puis, on fait plein de choses très drôles avec l'intelligence artificielle.
T'as une idée dans la tête, là.
Je vais continuer à faire.
Non, mais qu'est-ce que tu fais de très drôle avec l'intelligence artificielle?
Ah, mais il n'y a pas que moi qui le fais, il y a plein de gens qui font. Voilà, mais moi, j'ai vu des films qui sont créés et j'aimerais vraiment créer un court-métrage avec l'intelligence artificielle.
Un clip
J'ai fait deux clips avec l'intelligence artificielle, ça a cassé. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle utilise l'intelligence artificielle. Oui, c'était super sympa. Hein, parce que, excuse-moi, mais le deuxième clip que j'ai sorti sur les amants, sur les vieux amants, j'avais pu utiliser toutes les œuvres d'Andy Warhol et son influence pour créer des images.
À la manière d'eux.
C'était très joli. C'était très joli. Et l'un de mes peintres préférés, de mes artistes préférés, qui est Hieronymus Bosch. J'ai pu amener tout ça, c'est-à-dire qu'en fait, je ramène la culture, je ramène les œuvres de ceux qui ont compté pour nous, qu'on a tendance à oublier. On peut faire tout ça, c'est formidable.
C'est quand même assez extraordinaire, t'es proche de la peinture. J'ai eu la chance d'interviewer Gainsbourg dans ma vie. Je l'ai interviewé à l'époque, je me souviens, c'était à Toulouse, au Palais des Sports. Et le garde du corps me dit, c'est juste 3 minutes, Gainsbourg. Il y avait une file d'attente, comme tu peux t'imaginer, derrière. C'était à l'époque de Lemon Ancest. Et en fait, je ne savais pas quoi lui poser comme question, qu'on n'allait pas lui poser. Et je lui dis, mais vous avez des passions? Tu as la même passion que Gainsbourg. Il m'a parlé pendant une heure. Les gars, là, c'est qu'une, n'en pouvaient plus en disant, c'est fini. Le jeune, là, avec la tache sur le nez, ça commence à bien faire. Et Gainsbourg faisait, laissez une petite gars, c'est extraordinaire. Et il m'a parlé de peinture. Est-ce que toi, parce que lui, il peignait, et c'était vraiment quelque chose de très, très fort en lui. Sa maison est devenue un musée où il y a maintenant un an d'attente pour aller visiter sa maison. Et lui, quand je vois ta pochette, c'est une œuvre d'art. Lui m'a parlé de peinture. Est-ce que toi-même, tu te sers de tes mains pour peindre, pour sculpter comme il le faisait?
Non, j'ai pas ce talent. J'ai vraiment pas ce talent-là.
Tu as juste de l'admiration.
J'ai de l'admiration, du respect et puis aujourd'hui, une inspiration. Ils m'inspirent, tous ces peintres m'inspirent.
Mais ils peuvent t'inspirer musicalement également.
Oh oui, bien sûr.
Ouais. Donc tu vois une œuvre et tu peux partir sur des messages, sur une écriture.
Je pourrais. Ça, je ne l'ai pas encore fait, mais parce que je démarre aussi dans cet échange et dans ce mélange. Mais oui, c'est probablement... C'est probablement le futur.
Dans cette fusion, en fait.
Tout à fait.
Alors, la fusion, pour nos auditeurs, pour faire un petit peu, je mets un grand coup dans le micro, parce que ça fait longtemps que je ne m'étais pas mis un grand coup dans le micro. Les concerts à Paris, maintenant qu'on a parlé de cet album magnifique, je dois vous l'avouer. Concerts à Paris, c'est au Trianon, c'est assez sympathique. Une salle qu'on affectionne tout particulièrement. J'ai eu la chance de jouer là-bas dans une comédie musicale. Et puis, on a eu, il n'y a pas longtemps, Bertignac qui était au Trianon... J'ai eu la chance de voir également ce concert. C'est une salle fantastique. C'est le 27 février et puis il y aura jusqu'au 2 mars. C'est tous les soirs?
Oui, c'est 4 soirs et après on part en province.
Et ça va, 4 soirs, ça va, on encaisse bien. On parlait de fusion avec ce public qui te donne tout à chaque fois.
Tu veux dire à mon âge comment je vais tenir 4 soirs?
Mais pas du tout. Pas du tout.
Non, mais
c'est-à-dire que. Pas du tout, on parle pas d'âge. Non, de toute manière, nous, on n'a pas d'âge, on s'en moque, on est de la même génération.
Non, comment je vais tenir 4 soirs? J'ai tenu 3 soirs avec une énergie incroyable l'année dernière, c'était au Casino de Paris, et en plus, je sortais du Covid, donc je me dis, tu sais quoi? Je me lance, et puis je verrai bien.
D'accord.
Qu'est-ce que tu veux? On va pas se poser, oh là là, peut-être que je suis pas en forme, je m'en fous.
Là, justement, vu que c'est très 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 bientôt, ce 27 février au 2 mars, la promesse des gens qui viennent te voir, outre cette communion permanente, parce qu'ils sont vraiment avec toi, ils sont en toi, ils décortiquent ton moindre regard, ta moindre coupe de cheveux, ton moindre rouge et noir vestimentaire, parce que en fait, Jeanne Masse, c'est tout ça, quoi. La chorégraphie, le stylisme... La touch jamas,
c'est osé. Osé. Ouais, voilà. Ouais. Il y a un an, quand je suis venue au casino de Paris, j'ai osé mettre une perruque blonde vraiment à la Marilyn. J'étais habillée tout en blanc. J'avoue que quand j'ai revu les images, je me suis dit, t'es folle. Mmh. Mais c'était drôle.
Avec le recul, tu te dis, t'es folle, mais t'aurais
t'es
pas
folle.
Dû.
Ou, c'est non, mais folle ça... parce que voilà, c'est...
Non, mais ça veut dire que tu oses.
J'ose.
Ouais.
J'ose. Et en plus, je suis pas juste. C'est pas juste que j'ose, c'est que tout mon entourage me dit c'est génial.
Oui.
Et je leur dis, vous êtes sûr? Ouais, c'est génial. Vas-y, boum, tu rentres et tu vois les fans qui font.
Ouais.
Ça, j'adore.
Ouais. Donc de toute manière, quoi qu'il arrive, au Trianon et d'ailleurs dans toute la tournée,
on sera. Au Trianon, je peux pas vous dire dans quel état je vais arriver, mais je vais y arriver. Hein.
Ouais, c'est ça. Donc non, mais c'est ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'est-ce qu'elle va nous réserver encore.
Qu'est-ce que je vous réserve?
Qu'est-ce qui va lui passer encore par la tête à cet instant T-là? Et en plus, chaque soir, c'est différent. Et chaque soir, tu peux avoir une surprise.
Oui, voilà. Puis déjà, je change les costumes parce que j'aime pas porter deux fois la même chose. Donc, du coup, on change les costumes. Et puis, des fois, je change aussi plein de choses. C'est jamais dans une répétition constante.
Alors, pour les auditeurs, effectivement, il y a le Trianon, mais ceux qui ne sont pas dans Paris ou dans la banlieue parisienne, il y a la France, il y a la Belgique, il y a Antibes, il y a Lorient, il y a Nantes. Là, vraiment, c'est un marathon qui t'attend. Hein. La Belgique, tu pars à Mons, tu pars à Liège, il y a Nancy, Lille. On a des antennes un petit peu partout à Nostalgie en France, ça tombe bien. Il y a Lyon, il y a Marseille. Après, tu pars à Tours, à Bordeaux en avril. C'est un marathon, c'est ce qu'on appelle le marathon masse.
Oui, c'est pas mal ça.
On appelle ça le marathon de masse.
Ouais.
Et voilà. Et c'est toutes ces dates où il faut aller voir l'unique Jeanne Masse avec un grand bonheur.